Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Kipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit, ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Cours d'honneur, saison 2, épisode 8, nous revoilà. L'émission de la bande Radio Sorbonne, diffusée sur Radio Campus. Bienvenue, on t'accueille dans notre amphi, ici pas de TD, rien que DDM. Oui, n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, RSU est là pour toi, qui galère à trouver ta salle, toi qui galère à trouver des potes. Toi qui galères à trouver un bar, toi qui galères à trouver une meuf, on connaît tous les meilleurs plans de la rive gauche, les histoires qui se racontent au Crous, les meilleures façons de gruger le métro et toutes les terrasses du 5e arrondissement puisqu'il commence à faire beau. Enfin, on a trouvé le beau temps. Ensemble, pendant une heure, on te rejoue une fois par mois les meilleurs programmes de Radio Sorbonne Université, la radio étudiante de la plus vieille fac de France, sur la première radio étudiante de la capitale. Et dans cette émission, on te promet plein de choses, mais tout d'abord, bien sûr, de la culture.
Allô ?
Tu veux jouer avec moi ?
Mais également des rumeurs.
A-t-il jamais réellement glissé sa foutue langue dans ta bouche ?
Du love pour les plus chanceux.
Et je n'arrive pas à la chasser de mes pensées.
Et puis bien sûr, dans cette émission, du style avant tout.
Tout homme qui a le courage de vendre son âme par amour a le pouvoir de changer le monde.
Voici notre promesse, et avec une équipe bien déterre pour vous servir. Allez, on fait le tour du plateau. Bonsoir Laudine.
Salut Thomas, ce soir je vais vous parler du chocolat.
Excellent, le chocolat à quelques jours de Pâques. Évidemment, Clara à côté de toi, qui a réalisé les trois interviews de nos trois invités aujourd'hui. Rosalia, qui a réalisé le reportage sur les trottinettes que vous entendrez. Pauline est avec nous également ce soir.
Oui, salut Thomas, aujourd'hui je vous présente la carte postale au gymnase de Clignancourt.
Et on a hâte de l'entendre. Cilia, à ta gauche, bonsoir Cilia.
Bonsoir Thomas, pour ma part ce sera un petit récap de l'actualité du monde féministe.
Abel, t'as tendu le micro, salut Abel.
Salut Thomas, ce soir je vous parle de rap.
Emma est à côté de toi, bonsoir Emma.
Salut Thomas, moi j'ai parlé des blocus de Tolbiac.
Et pour faire le tour et terminer, nous avons Tibor, bonsoir Tibor.
Salut, moi je vais vous parler du canapé noir.
Le canapé noir, beaucoup de mystères autour de tout ça. Tu es ici chez toi, installe-toi, prends place, le décollage est imminent. Du haut de l'amphi, au fond des chambres de bonne, bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de RSU.
Et je n'arrive pas à la... Tout homme qui...
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment facile.
Carte blanche.
Et c'est Laudine qui s'y colle ce mois-ci parce que Pâques approche à grands pas et qu'on ne se lasse pas du chocolat. Laudine, tu nous fais le top 8 des raisons de ne pas s'en priver ce week-end.
Eh oui Thomas, on ne vantera jamais assez les bienfaits du chocolat. Ce ne sera sans doute pas votre meilleur allié si vous commencez déjà votre régime pour l'été, mais si comme moi vous en avez marre de l'hiver, des devoirs, de la pluie et que la fac vous laisse un goût amer, je peux vous assurer qu'une petite bouchée cacaotée vous apportera un véritable shot de vitalité. De quoi carburer pendant tous vos DST. Et oui, quand vous réfléchissez, ce sont des calories que vous brûlez. Et si vous avez fait soirée et qu'en cours vous vous endormez, un petit carré devrait vite vous requinquer, car le chocolat contient de la caféine et de la théobromine, de quoi stimuler votre cerveau et vous maintenir éveillé toute la journée. Ça vous permettra de varier de l'habituelle pause café. Et plutôt que de payer un psy pour vous écouter pleurer, vous plaindre de votre dure vie et des chaussettes que votre coloc a laissé traîner, faites-le plein de fer, de magnésium, d'endorphine et de potassium. Avec ça, bye bye la dépression hivernale, bonjour la bonne humeur estivale. En plus, le chocolat aurait même pour bienfait de prévenir les caries. Si, je vous jure, on nous a toujours menti. Et à ce qu'on dit, il permettrait aussi de rester jeune et beau toute sa vie. Il diminuerait le stress oxydatif des cellules, me demandez pas ce que ça veut dire, et limiterait les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. Mais bon, jeune et beau, vous l'êtes déjà. Par contre, la qualité suivante pourrait particulièrement vous intéresser. Si je vous dis que le roi aztèque Moctezuma consommait 50 tasses de chocolat chaud par jour avant d'aller honorer ses nombreuses femmes, que Sade en était adepte et que Madame de Pompadour en ajoutait au déjeuner dans sa purée depuis que Louis XV lui avait dit qu'elle était froide comme une macreuse quand ils se rencontraient, est-ce que vous voyez ? Oui, ce sont bien des propriétés aphrodisiaques du chocolat dont je veux vous parler. Mais oui, ce n'est pas pour rien qu'on en offre à la Saint-Valentin. À l'époque de Louis XV d'ailleurs, inviter quelqu'un à prendre un chocolat après le repas, c'était l'inviter, disons, à partager un moment de forte intimité. Alors la prochaine fois que vous avez un crush, un date, quelqu'un dont vous vous êtes entiché, vous savez ce qu'il vous reste à tester. Et le meilleur pour la fin. Saviez-vous que le chocolat était la nourriture des dieux ? Bah oui, à votre avis, pourquoi est-ce que j'en mange autant ? Plus sérieusement, lorsque les Indiens l'ont inventé il y a plus de 2600 ans, ils l'offraient à leur divinité au cours de grands rituels sacrés. Bon, après, ça s'est un peu démocratisé. Mais avec l'inflation qui est en train de nous tomber sur le nez, ça vaudrait peut-être le coup de commencer à faire des réserves et à en mettre de côté. Parce que qui sait, d'ici quelques années, on ne pourra peut-être même plus s'en payer. Enfin bref, ce week-end, gavez-vous de Lindt, de Kinder, de Ferrero et de Milka, parce qu'il n'y a pas à dire, ça vaut de l'or le chocolat.
Excellent, mais j'espère que tu vas nous en apporter, donc, du chocolat, Lodine. N'oubliez pas que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Parce qu'avant de se gaver de chocolat, il va falloir bosser, les partiels, c'est dans pas très longtemps, mais on l'a bien vu, il commence à faire beau. Un petit air de printemps s'est glissé dans la capitale de France. Alors quel est le meilleur plan pour bosser tranquille ? Eh bien, on a posé la question aux étudiants de la Sorbonne.
Pour travailler, bah, la BU, hein. La BIS. Parce que c'est calme, qu'il y a des ressources, il y a des livres.
À la BIS aussi, parce que c'est grand. C'est un lieu qui est vraiment agréable pour travailler. C'est beau, ça donne envie d'y aller. Puis c'est assez calme, ouais. Contrairement à votre bibliothèque.
En fait, je suis aussi à l'ENS en parallèle, donc j'aime bien la bibliothèque de l'ENS, principalement.
Soit la BIS, s'il y a de la place, ou sinon les patios, place de la Sorbonne, pour essayer de trouver un peu de calme et une ambiance un peu plus chaleureuse que la BIS. À l'intérieur, c'est plus sympa.
Les patios, c'est un bar.
Ouais, c'est plus sympa avec l'extérieur.
Moi, beaucoup. Surtout que là, je passais l'agrégation de philo, donc beaucoup chez moi. À la BIS, pas mal, surtout dans les petites salles, genre Aristote, etc. Et je suis un grand adepte du café depuis toujours. Que ce soit à l'intérieur ou en terrasse, ça dépend s'il fait beau ou pas. C'est une ambiance, c'est un fond sonore finalement qui est assez calme. C'est très Nathalie Sarraute quand elle écrivait.
J'aime vraiment bien la bibliothèque Malesherbes. Sinon, j'aime bien la BU ici, mais il n'y a pas toujours des places. Quartier jeune, donc QJ.
Sirant, comment vous l'avez connu ?
On l'a trouvé, je crois, sur
TikTok, je pense. Il faisait, au moment où ça a été ouvert, enfin où ça s'est ouvert, il y a eu pas mal de promos pour les jeunes, donc sur l'année dernière, je dirais.
C'est récent.
Oui, c'est assez récent, donc c'est pas ça qui est chouette, c'est pas super connu, donc il y a quand même des places, même en période partielle. Et puis c'est assez grand, il y a différentes pièces, même pour les projets de groupe et tout, c'est cool parce qu'on peut réserver, enfin on peut juste prendre une salle. Et sinon, bah, c'est super beau parce que c'est l'ancienne mairie de Paris, donc les moulures, les fresques et tout.
Voilà, le QG, le quartier jeune, je ne connaissais pas, c'est encore un bon plan révélé par Cour d'honneur ce mois-ci. Sur Radio Campus Paris, autour de la table, plutôt team bibliothèque, team appartement, où est-ce qu'on révise ?
Mais moi, je suis étonnée que personne n'ait parlé du lit, le nombre d'étudiants qui bossent dans leur lit. Il suffit d'un bon oreiller, voire deux, trois, quatre, pourquoi pas, une bonne couette, une bouillotte pour les frileux.
Non, mais on n'est pas en train de parler de mater des séries tranquilles avec son mec, hein, Célia.
Bah non, mais c'est cocooning, c'est un peu moins Nathalie Sarraute, mais c'est quand même sympa.
C'est vrai que le livre, mais le problème c'est qu'on peut pas écrire dans le livre, enfin c'est dur, à part écrire à l'ordinateur, genre faire des fiches de révision, c'est mou le matelas, donc, et puis ça donne envie de dormir, mais en vrai, les n'importe où en dehors de mon de chez moi en tout cas, j'ai l'impression que ça te force à réviser parce que tu t'es déplacé pour le faire, c'est pas pour rester sur ton téléphone, donc en vrai genre la BU, n'importe quelle BU, même si on a des meilleures que d'autres... n'importe quel BU, en fait, tu vois les autres travailler, ça te met dans l'ambiance, il y a des livres, et voilà. Tu
ouais, Emma, Pauline, je vous vois hocher la tête, vous aussi, il faut que ce soit une intention chez vous, vous n'arrivez pas à vous concentrer ?
Oui, bah, par exemple, pour ma part, je préfère vraiment la BU en général, parce que voilà, on a vraiment ce cadre de travail, Et j'aime beaucoup la BU de Clignancourt parce que j'aime trop toutes les baies vitrées. Et du coup, moi, à chaque fois, je me mets à côté parce que j'aime bien la lumière et tout. J'ai pas l'impression d'être enfermée. Et voir tous les gens travailler, ouais, ça aide. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Pareil, comme ça, je suis pas sur mon portable, j'ai pas cette tentation. Et je suis vraiment à fond dans... Enfin, j'essaye d'être à fond dans ce que je fais. Voilà.
Emma, Tibor, Ludine, vous, il vous faut avoir un beau paysage comme ça ou au contraire, être face à un mur, comme ça, vos pensées restent concentrées sur le papier?
Non, face à un mur, c'est beaucoup trop triste. Mais moi, je travaille beaucoup chez moi et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Enfin, j'ai beaucoup trop de distractions. Genre, je fais des pauses goûter toutes les heures. Et du coup, j'essaie de me convertir un peu à la BU, à la bibliothèque, même si j'ai du mal quand il y a beaucoup de monde et c'est un peu une difficulté.
Tibor qui prend le micro.
Ouais. Moi, ça dépend de mon humeur. J'aime bien la bibliothèque puisque quand je sors de la bibliothèque, j'éprouve une certaine satisfaction à avoir fait une grosse session à la bibliothèque et le fait d'y sortir me procure voilà, cette satisfaction de c'est bon, c'est terminé. En fait, associer le travail au lieu est assez efficace.
Bon, et le chocolat, Lodine, est-ce que ça sert aussi à se concentrer et à réussir les partiels?
Ah, mais tu rigoles, mais moi j'en emmène toujours avec moi pendant les DS. Hein. Moi je suis la personne chiante qui sort sa petite tablette et qui mange. Ouais.
D'accord, on a tous nos petits trucs donc pour réussir cette période de partiel qui s'annonce difficile avec les beaux jours que l'on a devant nous. Vous êtes bien dans Cours d'honneur et c'est l'heure de recevoir notre premier invité.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir David Lefebvre. Avant de passer à notre entretien, je me dois de vous présenter. Vous êtes professeur d'histoire de la philosophie ancienne à Sorbonne Université et directeur de l'UFR de philosophie de Sorbonne Université depuis novembre 2018. Ma première question va porter sur la discipline que vous enseignez ici à la Sorbonne. Expliquez-nous ce que désigne la philosophie ancienne.
Bonjour ou bonsoir. Alors, bon, je fais une toute petite correction, c'est que je ne suis plus directeur de l'UFR de philosophie depuis août 2022.
D'accord, ça, c'est récent.
J'ai laissé la place à mon collègue Jean-Baptiste Rosy et que depuis, je suis devenu vice-doyen de la faculté des lettres.
D'accord.
Alors, que signifie la philosophie ancienne? D'un point de vue, d'abord, quelque chose d'historique, c'est-à-dire que c'est une partie de la philosophie qui enveloppe la philosophie grecque, la philosophie latine et qui se distingue de la philosophie médiévale. Et c'est, on peut en parler comme de la philosophie ancienne ou de la philosophie antique. Et ensuite, on pourrait dire que c'est aussi, selon une formule qui n'est pas de moi, le berceau ou la carrière des principaux concepts de la philosophie postérieure, de la philosophie moderne et de la philosophie contemporaine, puisque la plupart de nos concepts sont issus des spéculations, des réflexions des philosophes présocratiques, de la philosophie grecque notamment, d'où nous viennent, via la philosophie latine, notamment Cicéron et Sénèque, nos principaux concepts philosophiques.
Pourquoi, quand on s'intéresse à la philosophie, il est important avant tout d'étudier l'histoire de la philosophie? Est-ce que ça peut nous aider à philosopher à notre tour?
C'est ce qu'on pense. C'est ce que pensent les historiens de la philosophie. C'est ce qu'on pense volontiers en France. C'est-à-dire qu'on pense volontiers en France que pour faire de la philosophie morale, politique, de la philosophie des sciences, il faut avoir une formation historique. Ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que ça ne se fait pas dans tous les pays. Mais en France, on considère volontiers que la réflexion d'ordre, enfin, dans toutes les autres parties de la philosophie, suppose une pratique de l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire une connaissance des principales périodes de la philosophie, de la succession, mais aussi de la réception des concepts. Alors, c'est en partie vrai, en partie faux. C'est en partie vrai parce que, vraisemblablement, si on faisait de la philosophie morale, politique, de la philosophie des sciences, de la philosophie de l'art, sans avoir une solide formation en histoire de la philosophie, on manquerait de sens de la perspective historique, on aurait une approche peut-être naïve, et dans la mesure où les philosophes que l'on étudierait ou les concepts que l'on étudierait sont eux-mêmes issus du passé ou des philosophes antérieurs, on ne pourrait pas les apprécier correctement, ni même les comprendre. Cela dit, en même temps, c'est en partie faux, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait impossible de faire, par exemple, de la philosophie morale, politique ou de la philosophie des sciences, sans ignorer une grande partie de la philosophie antique, comme par exemple c'est peut-être votre cas. Donc c'est certes quelque chose qui est qui est préférable parce que, notamment pour ce qui est de la philosophie grecque, c'est véritablement de là que sont issus les concepts, les problématiques dont nous sommes les héritiers. Plus d'un philosophe a dit en effet que le reste de la philosophie n'était que des notes de bas de page à la philosophie de Platon. Et c'est en grande partie vrai. Mais donc de ce point de vue, on peut dire effectivement que la philosophie antique est non seulement un point de départ chronologique, mais aussi une condition pour une pratique et un exercice de la philosophie ultérieure. Ce qui est en grande partie vrai, étant donné, si l'on en reste au sein de l'histoire de la philosophie elle-même, c'est-à-dire que si vous faites de l'histoire de la philosophie, si vous vous intéressez à Heidegger ou aux philosophes les plus contemporains, dans la mesure où eux-mêmes conçoivent leur travail, en grande partie que ce soit comme une critique ou comme une lecture des philosophes de l'Antiquité, il est impossible d'en faire sans connaître ces philosophes. Donc, même si ce n'est pas pour y rester, il faut effectivement y séjourner un certain temps, pour ensuite faire autre chose. C'est moins vrai pour les autres parties de la philosophie, et comme on peut le voir dans certains pays où en fait l'histoire de la philosophie n'est pas requise dans la formation.
Et quel est votre sentiment sur la place qui est faite à la philosophie dans notre société actuelle ? C'est une vraie question, je trouve, parce que quand on dit qu'on est étudiant en philosophie, on se heurte la plupart du temps à des réflexions du type « pourquoi faire ?» Voilà. Et donc, je me demandais, vous, en tant que philosophe, quel est votre avis sur ça ? Quel est votre sentiment ?
Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, en fait, vous avez ce sentiment d'une étrangeté de la philosophie, d'une inutilité, qui est un sentiment consubstantiel à la philosophie depuis Socrate, qui est défini, si on veut, comme atopos, c'est-à-dire celui qui n'est jamais là où il doit être, jamais dans son lieu, et auquel on demande toujours ce qu'il fait, auquel on reproche toujours ses questions. Donc on reproche aussi sa pauvreté et sa situation, qu'on met sur le dos du fait qu'il a fait de la philosophie. Donc ce n'est pas tellement nouveau, c'est un peu consubstantiel à la profession, à notre choix philosophique. J'ai plutôt le sentiment que les choses sont en train de changer, c'est-à-dire que depuis un certain temps, maintenant on considère que la philosophie est très utile. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder le développement des cabinets de philosophes, le développement de certains ouvrages de philosophie qu'on peut qualifier de pratiques, le développement d'une certaine conception thérapeutique de la philosophie, le fait que sur tous les sites, sur bien des sites qu'on peut trouver sur Internet, on trouve aussi des philosophes qui vendent leur propre capacité à gérer des problèmes, à trouver des issues, à faire du coaching, pour voir que la philosophie, à bien des égards, est en train de trouver une place dans la société, vraisemblablement via l'idée que la philosophie est d'abord non pas une morale, mais un exercice, et un exercice spirituel. C'est quelque chose qui a été popularisé notamment par Pierre Hadot, à un niveau philosophique très très solide, évidemment, mais et qui ensuite c'est un petit peu est devenu trivial, si vous voulez, progressivement, de telle sorte que, en fait, maintenant, la philosophie est un peu l'affaire de tout le monde et devient une espèce d'accompagnement moral, d'accompagnement de vie entre la psychologie, la psychanalyse et le coaching. Alors, c'est pas forcément mal, ça peut être utile, mais j'ai l'impression que, pour répondre directement à votre question, en fait, maintenant, on a peut-être moins honte de dire qu'on fait de la philosophie. Ça dépend dans quel milieu on se trouve. Mais on a peut-être moins honte de faire de la philosophie ou dans la mesure où la philosophie est devenue quelque chose d'utile socialement, qui a une place et même qui est très rémunérateur. Il n'y a qu'à voir les gens qui vont parler de la philosophie à la radio ou à la télévision, je ne parle pas de moi ici, mais les gens qui vont parler de la philosophie à la radio ou à la télévision, qui manifestement ne sont pas des gens qui ont raté leur vie, qui manifestent leur succès. Et donc on a l'impression que ces philosophes-là, après tout, peuvent donner envie de les suivre pour leur réussite sociale. Je ne vais pas citer de noms, mais enfin, c'est des choses que l'on voit souvent à la télévision.
Oui, en fait, j'ai l'impression qu'en France, on adore détester la philosophie, c'est-à-dire que d'un côté, on le voit un peu comme quelque chose de marginal, de même, moi, on m'a déjà dit que c'était trop abstrait, mais d'un côté, on ne peut pas nier que ça nous accompagne chaque jour, que même si on n'étudie pas dans ce domaine, D'ailleurs, il y a énormément d'expressions issues de la philosophie, même ancienne, qui sont utilisées dans le langage courant. Les gens ne le savent même pas. Et moi, c'est ça que je trouve fou, c'est que ça nous accompagne sans... sans qu'on s'en rende compte si on n'est pas étudiant dans ce domaine.
Je m'en réjouis, mais enfin, en même temps, vous êtes philosophe, donc vous êtes convaincu.
Oui, aussi, voilà. Mais justement, quand vous avez parlé sur le fait que la philosophie aujourd'hui se développe, notamment dans la pratique, je voulais vous parler de l'essor du développement personnel. Beaucoup d'auteurs semblent s'inspirer de philosophes de grands classiques, sans forcément toujours les citer par ailleurs. Plusieurs de ces livres prétendent être philosophiques. Ils proposeraient de vraies philosophies de vie. Mais finalement, le développement personnel, est-ce qu'il peut vraiment se confondre avec la philosophie telle qu'on l'étudie à l'université? Est-ce qu'il faudrait établir un distinguo entre la philosophie et le développement personnel?
Ça me semble tout à fait nécessaire. De toute façon, ce distinguo est fait, puisque ces gens ne s'appellent pas philosophes, mais je ne sais pas exactement quel nom ils prennent, mais ils considèrent qu'ils permettent, pratiquent ce que vous appelez le développement personnel. En fait, comme je vous le disais à l'instant, ce n'est pas absolument nouveau, c'est-à-dire qu'à partir du moment... je pense que même dans l'Antiquité, à partir du moment où la philosophie a existé, il y a eu une espèce de spectre entre les gens qui considéraient que la pratique ou la morale n'était pas possible sans les autres parties de la philosophie, notamment la métaphysique, la théologie, la physique ou la logique, et étaient vraiment unis et consubstantiels aux autres parties de la philosophie, et ceux qui en faisaient usage en la séparant. Et il faut bien dire que d'une certaine manière, c'est ça qui s'est passé et c'est ça qui se repasse actuellement. C'est-à-dire qu'on considère que le stoïcisme est réductible d'une certaine façon, par exemple, à la dimension thérapeutique, et que l'on peut abstraire du stoïcisme, je prends cet exemple parce qu'il est bien souvent derrière ce qu'on appelle le développement personnel, ou derrière certaines théories du développement personnel, on peut abstraire du stoïcisme la simple théorie des représentations et des opinions, en considérant que tout ce qui va mal, selon la fameuse... le précepte stoïcien selon lequel nous ne sommes pas maîtres des événements, mais en revanche nous sommes maîtres des représentations ou des opinions que nous avons sur les événements, ce qui est le point de départ, si vous voulez, d'une espèce de philosophie pratique minimale qui consiste à donner aux gens les moyens d'affronter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et de se recentrer sur eux-mêmes, c'est-à-dire sur leur délibération, sur leur propre choix. Mais évidemment, il y a un abîme entre la philosophie qui n'est pas entre la philosophie et puis ce développement personnel ou cette mise en pratique extrêmement extrêmement limitée dans son horizon, dans ses attendus dont vous parlez. Le problème est principalement d'abstraire, si vous voulez, ces conseils, ces recommandations qui ont toujours existé en philosophie, de leur substrat, de leur substrat théorique, de leur justification, de leur raison, si vous voulez. Et évidemment, ça caricature en grande partie la philosophie, parce que ça résume la philosophie à quelque chose de relativement dogmatique, en supprimant la part de réflectivité, de spéculation, d'interrogation, de question, qui normalement est plutôt consubstantielle à la philosophie.
Voilà. Et donc pour terminer, j'aurais juste une dernière question qui est classique dans notre émission. Que représente la Sorbonne pour vous ?
Alors, la Sorbonne représente pour moi, comme pour d'autres personnes qui ont été interrogées ici, une école qui n'a pas été la première, parce que ma première école était effectivement l'école normale. C'est aussi une école qui est... la Sorbonne est un établissement qui est assez multiple, parce qu'il y a Paris 1, Paris 4, il y a eu beaucoup de changements. Maintenant, c'est Sorbonne Université, et il y a des facultés au sein de Sorbonne Université. Pour moi, ça a toujours représenté un savoir... Ça a toujours été lié à un savoir, à une philosophie, à une pensée plutôt humaniste et très tournée vers le grec et le latin. C'est tout à fait limité et caricatural par un certain point de vue pour la Sorbonne, puisqu'il y a beaucoup d'autres... la Sorbonne, c'est beaucoup d'autres choses, mais pour moi, c'est grandement identifié à des disciplines humanistes, à des disciplines liées au grec et au latin, et en particulier à la philosophie, puisque la Sorbonne a été évidemment un haut lieu de la philosophie, notamment médiévale, il y a plusieurs siècles. Et voilà ce que ça représente pour moi, et j'ai l'impression que par certains aspects, la Sorbonne, et notamment la philosophie à la Sorbonne, à travers mes collègues, arrive à maintenir cette tradition de philosophie.
Et on espère qu'elle se maintiendra encore très longtemps. En tout cas, je vous remercie.
Beaucoup. Merci.
Merci, Clara est maintenant sur Radio Campus Paris. C'est l'heure d'écouter notre reportage tourné par notre reporter intrépide Rosalia.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau et là, c'est le drame.
C'était dimanche 2 avril, les Parisiens ont voté à près de 90% des voix exprimées contre les trottinettes électriques. Oui, vous le savez, celles en libre-service dans la capitale. Il faut dire tout de même que seulement 7,46% des électeurs se sont exprimés. Notre reporter Rosalia est allée à la rencontre du peu d'étudiants qui s'étaient rendus aux urnes.
À 15h, la file d'attente s'allonge devant la mairie du 11e arrondissement de Paris. Parmi la foule aux cheveux poivre et sel, on voit de rares étudiants. Louise, 19 ans, est venue voter pour le maintien des trottinettes en libre service.
C'est un moyen de locomotion assez abordable. Et quand je rentre assez tard le soir, du coup, ça me permet de rentrer facilement et plus en sécurité, quoi. Comme ça, j'ai pas à prendre des Bolt ou des Uber à 20 euros. Je suis moins à l'aise en vélo, quoi. Et aussi, par rapport au transport, aux grèves, c'était vraiment pratique. Donc là, je sais pas si le trafic va être amélioré, mais j'ai pas l'impression. Donc j'ai un peu... Je suis un peu dégoûtée.
Lucien, étudiant en 6e année de médecine, n'est pas du même avis.
Pour ma part, je suis venu voter contre les trottinettes électriques. Étant étudiant en médecine, je travaille à l'hôpital. Et je peux parler de 10 semaines de stage que j'ai passé cet hiver, où justement j'étais en réanimation neurochirurgicale. En fait, on accueillait tous les patients qui avaient des commotions cérébrales, des hématomes dans le cerveau, etc. Et alors, il n'y avait pas que ça, mais il y avait une part non négligeable de ces patients qui avaient eu des accidents de trottinette électrique notamment.
Selon une étude du cabinet de conseil cité pour le compte de la ville de Paris, 26% des utilisateurs de trottinettes en libre service ont subi un accident contre 51% des utilisateurs de Vélib.
Pour moi, c'est important de dire que ou bien on réglemente ça de façon vraiment formelle, ou bien on interdit purement et simplement si on n'est pas capable de gérer ça au quotidien.
Les interrogés déplorent la faible participation des jeunes. Mais comme Mara, 20 ans, ils semblent critiques face au paiement d'influenceurs par les opérateurs de trottinettes électriques pour tenter de mobiliser les 18-24 ans.
Enfin, ça m'énerve un peu, surtout vu toutes les mobilisations qu'il y a contre la réforme des retraites, des violences policières, ils ouvrent jamais leur bouche. Et si c'était leur conviction propre, etc., je pense que ça me dérangerait moins, mais là, on sait que c'est rémunéré, donc on ne sait pas si c'est vraiment leur avis propre, etc., donc je pense que c'est plus ça qui me dérange.
À l'avenir, il semble qu'il faille changer les modalités du vote pour que les jeunes s'en emparent davantage.
Et là, j'ai quand même l'impression que ça sélectionne plus des personnes... plus âgé, on va dire, que si ça avait été en ligne. Il n'y a pas très longtemps, il y avait eu toute une série de votes qui avaient été organisés en ligne pour plein de sujets propres au fonctionnement de la ville de Paris, auxquels j'avais participé aussi, notamment parce que c'était en ligne et que c'était plus facile. Mais d'un autre côté, moi je serais plus du genre à dire qu'il faudrait et en ligne et en présentiel pour qu'un maximum de monde puisse participer, puisque si on prend l'exemple du vote en ligne, par exemple les personnes qui ne sont pas habituées à utiliser des ordinateurs ou qui éprouvent des difficultés à les utiliser, par conséquent ne peuvent moins facilement s'exprimer et ça sélectionne entre guillemets une partie de la population.
Rosalia, qui nous avait tourné ce reportage, je ne pose pas la question autour de la table, personne n'allait voter, j'en suis sûr. En revanche, je suis sûr qu'il y a des amateurs de trottinettes électriques qui vont peut-être regretter de les voir disparaître. Abel ?
Moi, j'en ai une personnelle.
Okay.
Donc, mais je n'utilisais pas celle en libre-service. En vrai, je peux aller voter parce que je m'en fous un peu.
Les filles, des petites balades avec son amoureux à deux sur une trotte, c'est bientôt terminé, on le regrette ?
Alors à deux, non. À une non plus, parce que j'avoue que moi, je suis un petit c'est peu bien. Effrayée du comportement des automobilistes et des autres... en trottinette ou en vélo, donc j'ose pas vraiment prendre ce mode de transport et je comprends les gens qui ont voté non. Mais en même temps, c'est vrai que c'est quand même très pratique et que pour faire des trajets dans le métro ou dans le RER quotidiennement, il y a des moments où on aimerait bien être à l'air libre et pouvoir prendre une trottinette. Quoi.
Non, des amateurs, Tibor ? Pas de trotte, tu te déplaces comment toi ?
Seulement quand je tombe sur une trottinette en rentrant de soirée sur les boulevards à Bordeaux un soir avec un ami, mais sinon je les utilise pas.
Sans tomber dans la Garonne.
Sans tomber dans la Garonne.
Bon, eh bien, écoutez, vous avez bien raison de préférer les Vélib, de rentrer à pied, ça reste le moyen le plus sûr de rentrer jusque chez soi. Sur Cours d'honneur dans Radio Campus Paris, on accueille notre deuxième invité.
Oui, oui, la pièce est là, voulez-vous ? Voie A.
Il faut trouver la voie.
Notre invité ce soir est professeur à Sorbonne Université, spécialiste de l'histoire et de la civilisation de l'Allemagne contemporaine. Ses domaines de recherche sont l'histoire de l'Allemagne depuis 1945, les relations franco-allemandes et la construction européenne dans l'époque contemporaine et jusqu'au temps présent. Bonsoir Hélène Miard de la Croix.
Bonsoir.
Ma première question sera la suivante. En quoi il est important symboliquement, encore aujourd'hui, d'étudier les relations franco-allemandes de sorte à dépasser le comparatisme pour mettre en lumière les enchevêtrements et les interactions entre les deux pays ?
Alors vous avez tout à fait compris l'intérêt de ce type de recherche. C'est pas que symbolique, il s'agit, alors bien évidemment, il y a une portée, une utilité pour notre société et donc pour nos populations, mais c'est aussi un vrai sujet de recherche. Les travaux que je mène se positionnent, si vous voulez, dans une veine plus récente qui essaie de dépasser le paradigme national, qui serait une espèce de boîte fermée, et qui essaie plutôt d'étudier deux sociétés, deux pays voisins, qui sont proches et différents, dans une approche donc européenne, en les identifiant dans des dynamiques de rapprochement, de similitudes, de différences, pour essayer de dépasser l'explication par le national, qui n'est pas niée, mais où le vécu du pays, l'histoire spécifique du pays, et puis un certain nombre de données qu'on appelle généralement culturelles, sont remises à leur place comme un des facteurs, mais pas comme le seul, pour essayer de comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre.
En 2011, vous avez publié un livre intitulé « Le défi européen ». Et donc, ma question reprend un peu le titre de votre ouvrage. Quels principaux défis ont relevé main dans la main la France et l'Allemagne, et quels sont les prochains défis qui les attendent, selon
vous ? Alors ça, c'est une très, très vaste question. Mmh. Alors, si ce livre s'appelle « Le défi européen », c'est qu'il s'agit d'un des volumes de l'histoire franco-allemande, qui était un projet qui a été mené par l'Institut historique allemand de Paris, qui a pour objet, non pas de prendre l'histoire des relations entre deux pays, mais de prendre une histoire racontée ensemble, une histoire entremêlée des deux pays. Et moi, mon volume est consacré au milieu des années 60 jusqu'à nos jours, et où en effet, après la phase de réconciliation, entre guillemets, d'après 1945, une des raisons d'être de la coopération franco-allemande, au niveau politique, mais aussi économique, financier, bancaire, etc., était de faire progresser le projet européen, de construction européenne, qui lui-même est un des défis que se sont poser les Européens après s'être fait la guerre pendant au moins un siècle, mais on peut remonter encore beaucoup plus loin. Et donc ce défi de réussir à mettre ensemble des pays qui ont non seulement des structures différentes, mais aussi des intérêts différents, souvent même des intérêts non compatibles, cela relève du défi, puisque même si on analyse les projets, les intentions des dirigeants des différents pays dans une perspective de bonne volonté, de vouloir construire quelque chose, il n'empêche que les dirigeants doivent représenter les intérêts de leur pays. Ils sont d'ailleurs élus pour ça, et ils ne le feraient pas qu'on les accuserait d'être des traîtres. Donc cette approche par le défi est en effet une façon de mettre en perspective ce qui relève de compromis, qui est la construction du politique, c'est-à-dire identifier ses intérêts, identifier la compatibilité de ses intérêts avec ceux des voisins. Et entre les Français et les Allemands, on a à peu près réussi. C'est difficile toujours, jusqu'à aujourd'hui, parce que ce sont des pays qui sont structurés différemment et dont les intérêts sont articulés autrement. Et donc c'est toujours un effort et une victoire quand on arrive à mettre en place quelque chose qui convient aux deux.
Et justement, vous parliez d'aujourd'hui, et je me demandais comment vous caractériseriez les relations actuelles entre la France et l'Allemagne, voire plus précisément entre le président Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz.
Alors, votre question est intéressante, elle est très classique. Elle révèle un biais que l'on a, qui est de considérer que les relations entre deux pays se réduisent d'abord aux exécutifs et encore plus à deux personnalités.
On a cette impression.
Voilà. Et alors, c'est aussi un effet déformant parce que, surtout en France, dans la Ve République, le président de la République... incarne la nation. En Allemagne, c'est plus compliqué puisque le chancelier n'est que le chef de gouvernement. Mais simplement, le bilatéralisme a l'air incarné comme ça avec deux personnes qui permet de penser de manière schématique, réduction de complexité en disant c'est un couple. Et s'ils s'entendent bien, s'ils se sont fait des sourires, on a l'impression que tout va bien. Et si la photographie les montre regardant de part et d'autre, on va dire tout va mal. Ce qui est intéressant dans l'analyse de ces relations, c'est comment les exécutifs, qui sont eux porteurs d'un projet donc avec une majorité qui n'est pas nécessairement identique, font avancer ensemble des sociétés qui sont beaucoup plus interpénétrées qu'on ne le croit. Et donc on parle toujours des dirigeants, mais si l'on parlait des entreprises, si l'on parlait des universités, si l'on parlait des écoles, si l'on parlait de ce qu'on appelle la société civile, des jumelages de villes, on trouverait un tissu qui se comporte beaucoup mieux que cette espèce d'écume qui est l'actualité des rencontres entre les chefs d'État et de gouvernement et qui, eux, suivent un calendrier des dossiers tels qu'ils arrivent. Actuellement, c'est difficile parce qu'actuellement, on parle beaucoup d'énergie en particulier où les projets sont différents, la structuration de... ce qu'on appelle le mix énergétique est différent. Donc c'est un effet déformant. C'est intéressant, mais c'est un effet déformant.
Et si vous me le permettez, je vais juste revenir sur Olaf Scholz, mais pas spécialement sur lui, juste sur sa fonction, parce que justement, nous, en France, on a du mal à comprendre qu'est-ce que la fonction de chancelier, puisqu'on est habitué, voilà, comme vous l'avez dit, au président. Et donc, est-ce que vous pourriez nous décrire en quoi consiste cette fonction et quelle est la différence avec le président que nous connaissons en France ?
Alors, ça tient au régime politique qui n'est pas le même. En France, nous avons un exécutif qui est un exécutif à deux têtes, avec un chef de l'État et un chef du gouvernement. Le Premier ministre gère normalement, mène les affaires du pays en s'appuyant sur une majorité au Parlement. Mais le système français est un système semi-présidentiel, voire présidentiel, presque complètement présidentiel, qui donne un poids extrêmement fort au président et qui lui donne notamment un certain nombre de domaines qui lui sont réservés, de possibilités d'initiative. Le système allemand est un système strictement parlementaire, c'est-à-dire que le chef du gouvernement, le chancelier, qui dirige le gouvernement, qu'on appelle le cabinet, n'est en fait que l'émanation de la majorité au Parlement qui s'appelle le Bundestag. Et la majorité est en général composée de plusieurs forces politiques. Actuellement, il y en a trois, c'est très compliqué. Et donc, le chancelier est celui qui emmène une équipe qui, après de longues négociations qui durent des jours et des semaines, s'est mis d'accord sur un programme commun qui permet à chacune de ces forces qui composent la majorité de s'y retrouver. Donc on comprend qu'on va chercher un compromis. Et donc ce chancelier, il doit emmener son gouvernement en étant sûr à chaque fois d'avoir le soutien de son Parlement. Si jamais il n'obtient pas le soutien du Parlement, le gouvernement chute. Et donc, le chef donc du gouvernement allemand, le chancelier, est beaucoup plus un chef d'orchestre qui doit modérer, au sens d'être modérateur, différentes forces politiques qui ont des intérêts différents. Et non seulement il doit donc s'organiser avec son parlement, mais il doit aussi faire en sorte que les partis soient d'accord, que les groupes parlementaires soient d'accord. L'Allemagne étant un État fédéral, il doit aussi, avant de proposer des solutions, prendre en considération tous les autres gouvernements qui existent dans ce pays, c'est-à-dire qu'il y a 16 gouvernements en plus du gouvernement fédéral. Il doit s'intéresser aux syndicats, il doit prendre l'avis des différents partenaires sociaux. Bref, c'est un chef d'orchestre qui doit être extrêmement habile, être à l'écoute et être prêt à trouver des compromis. C'est pourquoi ce sont toujours des personnalités très différentes de ce qu'on peut trouver en France, des hommes qui accèdent à la fonction de président de la République. Il faut être plutôt en arrière de la main, plutôt discret et savoir accepter les compromis. Et ça, c'est quelque chose que le système politique allemand impose à la culture politique.
On sait par avance qu'on ne peut pas imposer sa position et qu'on doit absolument tenir compte des intérêts des uns et des autres. Alors c'est moins spectaculaire que le système français, c'est beaucoup plus lent comme mode de décision, parce qu'il faut, il y a beaucoup d'intervenants, mais donc il a une fonction beaucoup moins dans la lumière que ne peut l'avoir un chef de l'exécutif comme le président français.
D'accord, bah je vous remercie de nous avoir éclairé parce que c'était, en tout cas, c'était une vraie question que je me posais depuis un moment. Et donc, je vais terminer par une question assez classique dans cette émission. Que représente la Sorbonne pour vous ?
Oh, alors là, je dirais l'alma mater, comme on dirait en allemand, puisque en allemand, on aime beaucoup parler du latin. Alors, la Sorbonne, c'est un peu ma maison. Alors, je suis passée par l'École normale supérieure, mais j'ai quand même eu mes diplômes ici à la Sorbonne. Je l'ai quitté, je suis partie à Lyon et puis je suis revenue ici. J'associe à la Sorbonne à la fois la très longue durée. Je sais très bien que c'est la plus vieille université de France, voire d'Europe. Vous savez peut-être que la plus ancienne université de langue allemande est à Prague. Vous voyez, la culture de notre Europe est très variée. Et pour moi, j'essaie d'y trouver la réalisation de l'idéal des Humboldt, qui sont les penseurs au XIXe siècle de l'université en Allemagne, c'est-à-dire l'union entre l'enseignement et la recherche et l'enseignement, et où tous les enseignements que l'on apporte sont nourris par la recherche, où tous les acteurs, ici, dans cette maison, ne sont pas que des transmetteurs de savoir, mais ils contribuent à construire ce savoir, et c'est, je pense, ce que les étudiants doivent attendre.
D'accord, je vous remercie.
Merci Clara, cours d'honneur, saison 2, épisode 7. Allez, on a du courrier.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Carte postale de la semaine, signée Pauline.
Oui, du coup, je vous présente la carte postale que j'ai faite au gymnase de Clignancourt, où j'ai suivi une amie à moi, Elsa, à son cours de badminton.
Du coup, tu m'emmènes où aujourd'hui, Elsa ?
Alors, je t'emmène au gymnase de Clignancourt, à mon cours de badminton, qui a lieu le mardi de 15h30 à 17h.
Trop bien.
Alors, c'est parti ?
C'est parti.
Mon prof, il a dit, mais c'est un dépassement de soi, quoi.
Mais grave, c'est grave un dépassement de soi. Et genre, c'est le sport en général, mais surtout les matchs, ce qui fait que t'as trop envie de gagner, genre.
Mais tu sais, parfois, genre, quand tu vois comme ça, tu dis, ouais, c'est peut-être surtout le bras, la force et tout. Mais il y a l'endurance.
Ouais. Oui.
Mais l'endurance, ça joue de fou.
Oui, courir sur le terrain, genre.
Ouais.
Tu sais, dans les coins, quand on te met dans les coins,
ouais,
les volants.
Et qu'il faut revenir.
C'est horrible.
Mais tu sais, parfois il y a la technique quand t'es essoufflé, que tu vois que l'autre, tu sais, il est pas essoufflé.
Grave.
Tu ramasses le volant doucement. Je fais tout doucement.
C'est vrai.
Ouais, non, mais je te jure. Et tu récupères ton souffle.
Tu fais durer le truc.
Mais c'est ça. Parce qu'en vrai, théoriquement, il n'y a rien qui te dit que tu dois envoyer volant tout de suite. Hein. Enfin,
mais
faut,
oui,
juste que l'arbitre il dénonce le score et tout, et à partir de là, tu peux jouer. Mais ils disent pas, vas-y, tu dois jouer tout de suite. Au pire, tu sais, tu passes pour servir, tu fais genre tu réfléchis. Alors qu'en fait, genre tu.
Tu fais
dis,
genre, tu vas faire mais, un faire du c'est que.
Mais voir. Tu dis, ouais, mais où en fait ça va. Enfin, je veux dire, où ça va tomber. Tu,
ah, mais.
En fait, tu récupères et finalement, tu reviens un peu à égalité parce que si t'enchaînes et que t'es essoufflé et que l'autre il est pas essoufflé, vas-y. En fait, ça joue beaucoup sur la stratégie. Hein. La stratégie.
C'est trop important, en fait.
Mais surtout, c'est quelque chose que j'essaie beaucoup de faire, c'est analyser la personne. Genre, même parfois, quand je joue pas,
ouais.
Et je me dis, tu sais, à chaque fois qu'au début, je veux capter, limite, quitte à perdre les premiers points, tu vois, je me dis, je veux capter comment la personne joue, et je me dis, je dois aller sur les faiblesses de l'adversaire.
Mais c'est ça.
Et finalement, tu penses que tu peux gagner contre des gens qui sont hyper forts, juste
en
sur la faiblesse.
Ouais. Ça, je trouve ça génial. Moi, j'ai jamais réussi à analyser ou même à me dire, tiens, je vais me poser, je vais regarder cette personne jouer et je vais regarder tous les points faibles dans son jeu, tu vois. Et ou même juste les trouver, parce que parce que les trouver, je pense que j'arriverai même pas à le relever. Donc, c'est déjà de les relever, c'est cool comme ça.
Après, genre, c'est aussi de fou. Après, pas forcément les points faibles, mais comment la personne joue. C'est joue plus sur les côtés, c'est joue plus au fond.
C'est vrai.
Tu vois, la dernière fois, j'avais un gars, il jouait beaucoup sur les côtés. Genre, j'essayais de les mettre des courtes, mais dans ce cas-là, les courtes, il fallait les mettre. Bien
cool. Ah ouais.
C'est un sport très complet qui demande beaucoup de qualifications.
D'endurance, de coopération en double.
Exactement.
Et finalement, c'est pas comme le badminton de jardin.
Le bruit des volants, on n'a pas parlé, mais c'est satisfaisant.
C'est très satisfaisant.
Il y a une satisfaction.
Un beau sport. Mais c'est trop bien, ça détend.
Le gymnase de Clignancourt, raconté par Pauline et son ami à cette séquence donc de badminton. Vous êtes bien sur Cours d'honneur, c'était la carte postale sonore. Et dans Cours d'honneur, comme une fois par mois, eh bien on vous file tous les bons plans de la capitale. C'est l'infoservice de Radio Sorbonne Université.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez, la vedette, top table!
Et c'est Tibor qui est notre chroniqueur débrouille, la pastille info de RSU. Tu nous parles des étudiants qui pratiquent un certain art, des étudiants qui aimeraient partager leur moment de pratique artistique avec d'autres personnes. Eh bien, si c'est le cas, alors on a la solution, Tibor.
Avez-vous déjà entendu parler du canapé noir ? Selon ce nom-là, ne fait pas référence à un simple canapé qui serait de couleur noire, non. Ici, il s'agit du canapé noir. Mais qu'est-ce que c'est au juste ? Le canapé noir est un groupe d'étudiantes et étudiants provenant en majorité de l'école du Louvre qui se réunissent régulièrement dans l'appartement d'un ami afin de sculpter de l'argile et peindre. Cela pourrait vous intéresser, puisque ce groupe n'est certainement pas fermé aux étudiantes et étudiants de la Sorbonne et autres institutions estudiantines. Si vous souhaitez, vous aussi, créer en étant entouré, alors vous êtes au bon endroit. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de vous limiter à la sculpture ou à la peinture. Vous pouvez aussi dessiner, photographier, filmer, danser, chanter, faire de la musique et pratiquer toute autre forme d'art. C'est assez libre. Et vous n'êtes pas non plus tenu à produire une même œuvre à plusieurs. Le principe du canapé noir est d'être regroupé avec des gens cool, qui aiment créer. Donc, bien qu'étant entouré, vous pourrez toujours concevoir votre propre chef-d'œuvre dans votre coin. Bref, on vous accueillera avec plaisir et vous aurez peut-être le privilège de vous poser confortablement sur le fameux canapé noir dont le groupe artistique tire son nom. La prochaine réunion de pratique artistique, soit le prochain atelier, devrait avoir lieu le dimanche 9 avril sur le boulevard de Picpus dans le 12e arrondissement. Pour connaître l'adresse exacte, je vous invite à contacter le canapé noir sur Instagram @le-canapé-noir. Ce compte Instagram vous permettra aussi d'avoir un aperçu de ce qui se fait lors des ateliers du dit canapé noir. Je recommande grandement la visite. Passez au moins une fois, même si c'est seulement pour boire un café qu'on vous offrira chaleureusement ou pour parler d'art avec des personnes qui s'y intéressent, l'étudient et le pratiquent. D'ailleurs, le canapé noir est en train de remplir la paperasse qui est requise pour devenir une véritable association dont les projets et les événements futurs ne manqueront pas de vous séduire. Foncez.
Mais où est-ce qu'il va nous dénicher tous ces bons plans ? Merci. Merci, Tibor.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord.
Allez, place à la revue de presse.
Les féministes.
We are pure, we are strong, we are brave, and we will fight.
Ce soir, dans la revue de presse féministe, Célia va nous parler de lutte sociale, écologiste et culturelle, mais avant tout de la conquête pour les droits des femmes et pour leur reconnaissance politique.
Et oui, Thomas, ce soir, je vais vous parler de la militante Mathilde Caillard, du féminisme écologiste et de la musicienne Zaya Zouani. On la surnomme la techno-activiste ou encore techno-gréviste. La manifestante Mathilde Caillard a dansé contre la réforme des retraites sur les pavés de la capitale. Sa chorégraphie a fait le tour des réseaux sociaux. C'était le 28 mars dans les rues de Paris. Mathilde Caillard, une activiste de 25 ans, défilait dans les cortèges anti-réforme quand elle a entamé une danse énergique et joyeuse en déclamant son slogan « Retraite, climat, même combat, pas de retraités sur une planète brûlée ». Une semaine plus tard, la vidéo cumulait près de 3 millions de vues sur Twitter et continue de fédérer les manifestants écologistes, féministes et plus largement anti-réforme. Alors si vous voyez passer cet extrait dans le fil d'actualité de vos réseaux sociaux, vous la reconnaîtrez tout de suite. Mathilde Caillard porte une frange courte, des larges lunettes de soleil, une ceinture rouge, un jean noir et surtout un t-shirt avec le logo du collectif écologiste Alternativa.
La sosie presque d'ailleurs de notre Clara, l'intervieweuse de cours d'honneur, Mathilde Caillard, dont on a entendu parler jusqu'en Allemagne. Une amie aujourd'hui m'a écrite pour me faire part qu'elle était fan de ses danses. On l'a compris, Mathilde Caillard, jeune militante écologiste. Alors quel lien on peut établir entre féminisme et écologie, Cilia ?
C'est la question que s'est récemment posée le journal Reporter, qui a titré « Écologie et féminisme, même combat ?» Point d'interrogation. La journaliste Laurie-Anne Cholez est allée interroger 6 défenseuses de l'environnement lors de la Journée internationale de lutte pour les droits de la femme, pour le droit des femmes, le 8 mars. Près de 70 000 personnes ont défilé entre les places de la République et de la Nation à Paris, selon les organisatrices. 15 000 personnes se sont, selon la préfecture. En tout cas, dans le cortège, des écologistes rappellent la force du patriarcat pour structurer l'ordre social, mais aussi l'ordre économique de notre société et son impact sur la question climatique. L'avocate et juriste en droit de l'environnement Marie Calmet, présente dans ses rangs, établit très nettement la logique de soumission qui est à l'œuvre dans ce double combat. Elle a ainsi déclaré « La domination des femmes, celle de la nature, c'est la même logique d'appropriation ». Une piste de réflexion nécessaire à explorer, donc, selon la présidente de l'association Wild Legal, si on veut mener un double combat pour la planète et pour les droits des femmes.
Culture à présent, Cilia, tu voulais nous raconter la lutte de Zaya Ziwani, une musicienne passionnée pour devenir chef d'orchestre.
Vous avez sans doute entendu parler du film Divertimento, réalisé par Marie Castille Mentionchar et sorti en salle en ce début d'année 2023, le 25 janvier. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous fais un petit pitch rapide. À 17 ans, Zaya Ziwani rêve de devenir chef d'orchestre. Seulement, elle est issue d'une famille algérienne et vit en Seine-Saint-Denis, dans les quartiers populaires, et personne ne croit en son rêve. Alors avec détermination, passion et courage, elle parvient finalement à créer son propre orchestre à l'âge de seulement 20 ans avec sa sœur Fetouma qui est elle-même violoncelliste professionnelle. Ce film parle de la difficulté à s'affirmer dans le monde de la musique classique en tant que femme et surtout en tant que fille d'immigrée. Thomas, tu l'as dit, cette histoire est inspirée de la vie, de la vraie vie de Zaya Ziwani, qui a aujourd'hui 44 ans. Et dans une interview très inspirante parue il y a quelques jours dans Le Monde Campus, que je vous conseille de lire, Zaya Ziwani revient sur son combat féministe et son combat social. Aujourd'hui musicienne accomplie et chef d'orchestre, elle conclut ainsi « L'excellence aussi a toujours sa place dans un quartier populaire ».
Excellente conclusion pour la revue de presse féministe, Célia. La pépite du jour sur Cours d'honneur, c'est Crackers, qui avait fait un featuring avec Sampa the Great. Et cette chanson que vous connaissez peut-être, ça s'appelle « Approach with Caution », à approcher avec attention.
Scratching all the lines, changing all the times, knocking out the box while we polishing our rhymes, yeah. Some guys should buckle up and approach with caution. We don't take it lightly who we pick for our supporting. We the type of she's who can follow and lead. We can build a business while we blowing off trees. Oh, the bee's knees, oh, the knees weak. Kill him with a dress, not a damsel in distress. What's found? Queen, siren goes sound, huh? Silent and proud, huh? Shaman says pow. Yeah. We don't. It over here, this is how we kick it when we kick a new year. How you doing? New phone, new heart, new hair. Got to know the shoulders, lead them mind control us. Be an individual, as they might control ya. Stepping on my own, building my own throne. I'm collecting all the paper for my kingdom back at home. What you wanna know? I said it all before. What you wanna see? I showed you all before. I shine my little light, I do it all the time. My kids will see my praises when they speak about my life. But we don't really care. No, we don't, no, we don't, no, we don't. We don't care. We don't care. We don't really care. No, we don't, no, we don't, no, we don't. We don't care.
Approach with caution, méfiez-vous avant d'approcher, nous dit Crackers avec Sampa the Great sur Cours d'honneur dans Radio Campus Paris. Vous nous écoutez en ce samedi soir et puis comme on dit, jamais 203, c'est l'heure de notre troisième invité.
RSU.
Bonjour Gilles Soufi.
Bonjour.
Donc ce soir vous êtes notre invité. Et donc avant de commencer notre entretien, je me dois de vous présenter. Vous êtes professeur en langue française à Sorbonne Université, spécialiste d'histoire de la langue française, particulièrement des 17 et 18e siècles. Vous avez travaillé sur l'imaginaire de la langue au 17e siècle. Pourriez-vous nous définir en quelques mots ce que désigne cette expression ? Qu'est-ce que l'imaginaire de la langue et quelle est la particularité de celui du 17e siècle ?
Oui, j'ai commencé à travailler sur ce sujet après des cours que j'ai suivis ici à la Sorbonne en tant qu'étudiant sur la langue des 17e et 18e. Et il m'avait semblé comprendre que c'était un peu le moment où se construisait ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les normes du français. Mais le mot norme n'existe pas au 17e. C'est-à-dire le moment où on a travaillé sur la langue pour essayer de la rendre plus claire, plus simple, en quelque sorte de l'équiper aussi avec des dictionnaires, des grammaires. Donc c'est le moment qu'on appelle le français classique. Et effectivement, quand on lit un texte du 16e et quand on lit un texte du 17e, on voit qu'il y a une grosse différence. Et il y a tout un ensemble de grammairiens, d'auteurs de dictionnaires, de remarqueurs, de gens qui ont fait des remarques sur la langue, qui sont passés par là. Et je voulais m'intéresser à leurs attitudes, ce qu'il y avait derrière. Pourquoi ont-ils travaillé la langue dans un certain sens ? Pourquoi n'ont-ils pas accepté que la langue évolue spontanément en fonction de ce que disaient simplement les gens ? Et quelles idées avaient-ils derrière de la langue ? Voilà. Alors l'imaginaire de la langue, c'est en quelque sorte une langue idéale qu'on imagine et qu'on superpose à ce qui est vraiment employé. Et il me semble que dans l'histoire du français, c'est assez important et que ça a continué jusqu'à aujourd'hui à travers les 18e, 19e, la construction du discours de la grammaire.
D'accord, je vois. Et donc à ce propos, de quelles évolutions majeures vous pourriez nous parler dans la langue qui ont eu lieu au XVIIe ou XVIIIe siècle ?
Disons ce qui a beaucoup été travaillé au XVIIe et XVIIIe, c'est d'abord le lexique, puisqu'il n'existait pas de dictionnaire du français monolingue, c'est-à-dire du dictionnaire de français en français. Il n'y avait que des dictionnaires bilingues. Il n'en existait pas avant la fin du XVIIe et avant la création de l'Académie. En 1635, et le premier dictionnaire qui est paru, c'est seulement à la fin du XVIIe. Donc en fait, on n'avait aucune idée vraiment de ce qu'était un mot français. Là, on en a fait la liste, en quelque sorte. Une liste qui est évidemment contestable et qui est sans arrêt revue. Et puis, au plan de la grammaire aussi, il y a eu énormément de retouches qui ont été faites sur les accords, sur la place des mots, l'ordre des mots dans la phrase, la façon de construire une phrase complexe, etc. Et on le voit bien quand on lit un texte de Voltaire, c'est beaucoup plus proche de nous que d'un texte de Montaigne. Et on voit tout ce qui est passé entre les deux.
Et aussi, je me demandais, de nos jours, on voit souvent apparaître l'idée que les nouvelles générations maîtrisent de moins en moins l'orthographe, notamment avec l'avènement des textos, par exemple. Est-ce que c'était déjà un sujet au XVIIe et XVIIIe siècle ? Les gens faisaient-ils beaucoup de fautes de français ? Est-ce qu'on déplorait cela ?
Oui, absolument. Et alors c'était un sujet d'autant plus que l'orthographe du XVIe siècle est extrêmement liée au latin. C'est-à-dire qu'on a beaucoup chargé les mots de lettres étymologiques. Par exemple, le mot « temps », qui pouvait s'écrire très facilement « t-a-n » en ancien français, comme ça se prononçait, on l'a refait à la Renaissance en mettant « t-e-m-p-s », qui évoque le « tempus » latin, et qui permet de comprendre aussi comment l'adjectif « temporel », par exemple, il est relié au substantif « temps », « t-e-m-p-s », même si on n'a jamais prononcé « temps », on n'a jamais dit ça comme ça. Mais du coup, ça demandait une grande connaissance du latin, ce qui fait que les gens ne l'avaient pas, et notamment les femmes, qui n'étaient pas éduquées, très peu éduquées au XVIIe siècle, et surtout pas en latin. Et donc les femmes et un certain nombre d'autres personnes ont demandé des réformes de l'orthographe. Et il y a des textes très intéressants du XVIIe siècle qui essayent de revenir à une orthographe, entre guillemets, calquée sur la parole, sur la prononciation. Action, écrit A-X-I-O-N, par exemple. Des choses de ce type.
D'accord.
Mais ça n'a pas pris, ça n'a pas marché, ce qui fait qu'on est resté dans une orthographe très conservatrice et très lourde. Alors aujourd'hui, évidemment, elle est difficile à maîtriser. Personnellement, je suis en faveur d'une réforme de l'orthographe sur un certain nombre, pas tout, hein, on ne va pas faire une orthographe phonétique, mais sur un certain nombre de points, oui. Parce qu'il y a vraiment des trop grosses difficultés dans l'orthographe française aujourd'hui.
Et sur quel point, par exemple ?
Le point des accords, par exemple. Je suis favorable à la suppression de la règle d'accord du participe passé avec avoir, qui est complètement contre-intuitive, et l'antécédent placé avant, qui est complètement contre-intuitive, et qui est très difficile, on le sait, à maîtriser, que nous avons eu beaucoup de mal à maîtriser à l'école, et on le voit aujourd'hui, les accords spontanés que les gens font sont souvent des accords neutralisés. La chose que j'ai dit, la chose que j'ai fait. Je dirige une thèse sur ce sujet en ce moment, qui analyse quantitativement le nombre d'accords de ce type qui sont réalisés.
Et
toutes les classes de la population, pardon.
D'accord, je vois. Et juste vous, en tant que chercheur, est-ce que vous avez le pouvoir, justement, d'influer sur la langue française ? Comment vous pouvez vous y prendre pour que, par exemple, pour ce que vous voudriez réformer, comment vous pourriez faire pour que ça soit effectif, pour faire entendre votre voix ?
Oui, alors c'est une bonne question, parce que je travaille dans un domaine, justement, où il y a une part de recherche scientifique, entre guillemets, avec des méthodes très objectives, etc. Et en même temps, c'est un domaine où les chercheurs peuvent être sollicités pour donner leur avis sur des évolutions, et on l'est. Les linguistes sont souvent sollicités, je l'ai été comme d'autres collègues, par des médias pour donner un avis subjectif, subjectif. La difficulté est de savoir si c'est vraiment l'avis du chercheur ou si c'est l'avis de l'usager, entre guillemets, un peu éclairé. Et c'est souvent complexe. Je pense que la question se pose aussi pour les sociologues, pour des philosophes aussi, qui peuvent être sollicités dans un débat public. Après, est-ce que notre voix compte ? Ça, je ne sais pas. Mais il y a quand même des institutions où des linguistes ont leur part, les commissions de terminologie, etc., où ils sont associés parfois.
Et tout à l'heure, quand vous avez parlé notamment des femmes au XVIIe et XVIIIe siècle qui ne maîtrisaient pas, par exemple, le latin, ça m'a amené à la question, est-ce que pour vous, justement, la langue peut être considérée comme un instrument de pouvoir ?
Alors, c'est pas la langue en elle-même, mais je dirais que la langue est souvent le reflet de la société aussi. Donc, ce qu'on appelle la langue, c'est un peu une commodité. Il y a une notion que je préfère à la notion de langue, c'est la notion d'usage. Et en fait, on s'aperçoit que les usages sont variables. Et aujourd'hui, c'est très frappant. Les usages sont variables selon les métiers, les domaines dans lesquels on travaille, les lieux où on est, les régions, si on est urbain, rural, etc., ce à quoi on est confronté dans notre vie. Et là, il peut y avoir des enjeux de pouvoir. Donc, je ne dirais pas nécessairement que la langue elle-même est un instrument de pouvoir, mais ça reflète, on y lit des mécanismes d'exercice du pouvoir, absolument.
Et selon vous, de quelle manière la langue française a évolué ces 20 dernières années ?
Alors, c'est vaste sujet, bien sûr, mais ce qui est frappant dans les 20 dernières années, c'est l'apparition des technologies qui sont à mi-chemin entre l'écrit et l'oral. Et là, on voit bien comment les courriels, comme on dit à l'imitation des Québécois maintenant, pour éviter mail, je dis aussi mail, hein, rassurez-vous, les textos, etc., sont de l'écrit qui est quand même pensé différemment de l'écrit traditionnel. Donc il y a des graphies, il y a une syntaxe différente. Et puis on voit aussi apparaître aujourd'hui les messages qu'on appelle les vocaux, donc ils sont de l'oral pur. Donc tout ça s'entremêle. Et en même temps, c'est pas de l'oral où on s'adresse à quelqu'un, c'est un enregistrement. Donc tout ça se mêle et c'est cette perturbation du médium, comme on dit, qui est assez intéressante à observer. Il y a beaucoup de chercheurs qui s'y intéressent. Par ailleurs, il y a aussi l'aspect social, l'aspect qu'on appelle chez nous sociolinguistique, c'est-à-dire que il y a des milieux très clos et la société est assez compartimentée, en fait. On a pu avoir l'illusion dans les années 80-90 qu'il y avait une sorte de grande démocratisation, que tout le monde allait parler pareil, etc. Et en fait, c'est faux. Il y a la reconstitution de groupes sociaux qui parfois développent leur langage.
Hein? Oui, on peut voir que c'est pas possible de parler de la même manière. Déjà, rien qu'une personne qui vit dans une région du sud de la France, une autre qui vit dans le nord, ensuite, suivant la classe sociale... Ça paraît, et c'est pour ça que des fois, quand on n'est pas de Paris et qu'on arrive à Paris, on voit qu'on ne parle pas comme tout le monde.
Bien sûr. Alors, je pense, avec d'autres linguistes, que les différences entre régions en France ont tendance à s'estomper. On les a beaucoup mises en avant dans les années 70, etc. Les variations régionales du français, je pense qu'elles sont en train de s'estomper, de diminuer. Par contre, les variations sociales augmentent. Certains linguistes s'intéressent à ce qu'on appelle la langue des banlieues, entre guillemets. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette langue des banlieues, elle a des points communs entre les banlieues parisiennes, les banlieues de Grenoble, les banlieues de Toulouse, etc. On retrouve des mécanismes qui n'ont rien à voir avec les régions.
D'accord. En tout cas, c'est un sujet que je trouve passionnant. Et donc, j'ai une dernière question à vous poser. C'est un peu un rituel dans notre émission. Que représente la Sorbonne pour vous ?
Que représente la Sorbonne pour vous ? Alors, je suis ici depuis 2011 et je viens de l'université de Montpellier, où j'ai commencé ma carrière. Et c'est vrai qu'à un moment donné, lorsque l'opportunité s'est présentée d'un poste qui était au concours, je me suis posé la question. Et ça n'a pas été simple. Je ne suis pas du tout parisien au départ. J'ai fait mes études à la Sorbonne, mais voilà, c'était pas simple. Ce que ça représente, je me suis dit, ça me représente d'une part un changement dans ma vie professionnelle et sans doute davantage d'opportunités de rencontres, d'autres étudiants, d'autres collègues, un lien aussi avec la vie culturelle, intellectuelle parisienne qui est quand même pas négligeable, etc. Donc, je ne mythifie pas la Sorbonne, mais je suis quand même très content. Mon expérience est très positive et je suis très content d'avoir pu bénéficier de toutes ces nouvelles opportunités sans du tout que ça soit un jugement dévalorisant pour les autres universités françaises, parisiennes et en région, comme on dit. Pas du tout.
D'accord. En tout cas, nous, on est très contents de vous avoir reçu.
Merci à vous de m'avoir reçu. Oui, oui.
Le marathon de Clara. Merci, Clara. Vous êtes toujours sur Cours d'honneur, c'est l'heure de Sincèrement Hamza dans Cours d'honneur.
Hey, this is not a test, this is rock and roll!
Un peu de musique aujourd'hui avec Abel. Abel, tu nous parles de rap.
Et oui, enfin dans Cours d'honneur, après la chronique d'Emma sur Little Sims, on reparle de rap. Aujourd'hui, je vous parle d'un des albums du début de l'année, Sincèrement d'Hamza. Sauce God baby, SO Big Pumps. M'en bats les couilles que tu m'envoies dans la surf. Envoie-moi des bitcoins. Bitch, who's back? Sauce God baby, elle veut me caracas. Je suis young, mais j'aurais pu finir à Saint-Gilles. Je crois que j'ai la baraque. Et oui, Who's Back Baby, c'est bien le rappeur belge Hamza, a.k.a. Sauce God, qui est de retour, avec 17 sons de très bonne musique, du miel pour les oreilles. 40 000 albums vendus en première semaine, le projet sorti le 17 février ne quitte plus le haut des charts. Notamment grâce à de très bons morceaux, des singles comme on dit. On peut citer Nocif, le morceau avec l'autre rappeur belge Damso, un son festif qui sample le connu Lady de Mojo, et ça donne ça. Baby, j'ai câblé pour toi. Sans intérêt, ne demande pas pourquoi. Ce soir j'ignore, j'fume la zaza. Un tas de tourments qui me suivront pour le reste de ma life. Ou
ou encore celui en feat avec Offset, le rappeur américain des Migos, une collaboration très attendue par le public. Car Hamza, qui est proche du rap américain depuis longtemps, rappe enfin avec un rappeur d'outre-Atlantique. Le morceau s'appelle Sadio et c'est une réussite. Mais le succès d'Hamza dans le rap n'est pas seulement grâce à de très bons singles qui portent ses albums. Alors parlons un peu du rappeur. Hamza, de son vrai nom Hamza, est né en 1994 en Belgique. Le Belge commence la musique jeune avec son groupe Kilogram Gang, sans grand succès. Son premier projet solo qui le fera connaître, c'est évidemment H24 en 2015. Projet où Hamza présente au grand public son style qui se démarque du reste. Mélangeant du français et de l'anglais, des prods flottantes avec des inspirations trap, une voix autotunée et un flow qui s'inspire, comme il aime à le rappeler, des rappeurs d'Atlanta comme Young Thug, au sommet de son art en 2015. Un style qui plaît à l'international, confirmé par son invitation à faire la première partie de la superstar Drake lors de son passage à Paris. 2015, une année où pourtant le rap est dominé par la trap, mais lui, comme d'autres, arrive à tirer son épingle du jeu avec un style plus doux. Et le succès est immédiat. Ensuite, ça enchaîne avec 7 albums tous certifiés, des classiques. Une aura qui s'étend dans le monde francophone et anglophone, et Hamza nous honore avec son 8e projet, sincèrement. Mais bon, si les deux extraits du début ne vous ont pas convaincu à foncer, écoutez, je continue. Dans le rap d'Hamza, et particulièrement dans cet album, il y en a pour tout le monde. Des sons club, d'autres qui parlent d'amour, à sa manière. Ou encore des morceaux purement rap, où ça kick. Une pluralité dans la mélodie, due, d'après le chanteur, au large spectre de musique qu'il écoute, depuis tout petit. De la variété, comme du rock ou du rap. Cela lui a permis de créer son style en partant du rap et en développant des mélodies. Un style que l'on n'aurait même pas considéré comme du rap au début des années 2000. Une capacité à s'adapter à plusieurs mélodies qui confirment avec la collaboration avec l'artiste nigérian CK. I met you last December. Do you remember? You've been there for the center of my eyes when I sent you your credentials. I say I must to enter. Your body is essential to my life, to my life. Le morceau Koro Koro à l'instrumental Afrobeat est un exemple de cette pluralité musicale présente dans l'album. La première fois qu'Hamza tente ce style de morceau avec une prod assumée Afrobeat. Ce qui montre aussi l'évolution de l'artiste, comme il le dit dans une interview chez Mehdi Maizi. Je grandis et j'évolue à chaque album. C'est alors sûrement l'attirance de plusieurs artistes français pour l'Afrobeat qui l'a poussé à franchir le pas. Ce qui annonce, on l'espère, que du bon pour la suite, en espérant qu'Hamza continuera son évolution. En tout cas, ses fans le souhaitent.
Même pas de bénéfice, donc j'suis soupçonné. Belle que cette bitch, elle va te consommer. J'te marcelle de chacun pour le prix, car non. J'ai envie cette life, sale, sale, sale. J'te veux seulement quand je tease la night. Je sors les métaux pour la maille, oh my. J'ai pris la night. Wow, wow, wow. L'être un haineux, tous mes haineux. Si tu roules avec un haineux, c'est que toi même t'as un haineux. Wow, un homme qui pense à pouvoir un jour monter sur ma tête. C'est un homme qui se trouve du bien, putain de maman sous mes pieds. Je vois la vie en or, mais j'ai des billets violemment. Mais ta petite tenue rose, baby daddy's coming home. Tout un tas de promesses dont je me suis jamais fait. On est pour le gain car on n'a jamais lieu. Hey, oh, big stepper, pour que tout s'arrête, faudrait que Dieu m'arrête. Et depuis le temps que j'entends ces voix résonner dans ma tête. Fuck tous ces fils de pute et ceux qui roulent avec eux. Un tas de bénéfices, donc j'suis soupçonné. Belle que cette bitch, elle va te consommer. J'te marcille de chacun pour le risque, oh non. J'ai pris cette life, sale, sale, sale. J'te veux seulement quand je tease la night. Elle sent les métaux pour la maille, oh my. J'ai pris la night. Wow, wow, wow. Je me souviens de toutes ces nuits à regarder le ciel en me demandant si quelqu'un m'entendait.
En vrai, c'est tout ce que j'attendais. La vie de ma mère. J'ai grandi dans la violence. Avec un joint de bleu, j'ai appris à la romance. La douce dans ma tête, seul dans ma chambre. Ils vont laisser tomber quand ils n'auront plus rien à prendre. Je vais venir avec un métal, on verra si je suis tendre. J'ai plus grand chose à dire, encore moins de choses à prouver. Ceux qui veulent me nuire, ils savent où ils peuvent me trouver. Ce n'est que ma réalité. B-O-B-O-X réalité. Un tas de bénéfices dont j'ai soupçonné. Mais la caisse de budget va te consommer. Je démarre si l'échec en vaut le risque. Oh non, oh, non. J'ai repris cette life sale, sale, sale. Je te veux seulement quand je tease la night. Sur les métaux pour la maille, oh my. J'ai pris la night. Oh, oh, oh.
C'était le tiers chanson française dans Cours d'honneur sur Radio Campus Paris. Hamza, présenté par Abel. Vous êtes toujours dans Cours d'honneur, c'est l'heure du pavé de culture.
Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Il boude parce qu'il y a des tas de journalistes qui viennent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas ?
Le pavé de culture, les savoirs inutiles, donc complètement indispensables. Chaque mois, on vous raconte une anecdote méconnue de l'histoire de la Sorbonne. Et on vous raconte aujourd'hui Tolbiac et les blocus en ces temps de contestation sociale qui déferlent sur la capitale. Emma, tu reviens sur l'histoire militante du site de Tolbiac de l'université Panthéon-Sorbonne.
Eh oui, en tant qu'étudiant et étudiante, je pense que les récents blocages de fac n'ont échappé à personne. Quoi qu'il en soit, tous les étudiants de Paris connaissent plus ou moins la réputation de Tolbiac, ce campus dans le 13e arrondissement. On en parle souvent pour mentionner ses blocus, ses AG, et même l'occupation du site par les étudiants. Alors je me suis demandé, pourquoi ici en particulier, qu'est-ce qui nous motive, nous les étudiants, à bloquer ?
Le jeune est inquiet. Le jeune craint pour son avenir de jeune. Et donc, le jeune bloque sa faculté à Tolbiac, où je suis allé ce matin. Et le jeune fait du bruit. Le jeune proteste.
Tolbiac ouvre ses portes en 1973 dans le but de désengorger le centre historique de la Sorbonne, alors que le nombre d'étudiants ne fait qu'augmenter. Construit au lendemain des événements de mai 68, le site est pensé pour incarner une forme de retour au calme. On peut dire que c'est pas franchement réussi.
Une nouvelle manifestation organisée pour protester contre la fermeture de la Sorbonne et les arrestations groupe 20 000 étudiants. Le défilé dans Paris dure 5 heures sans incident.
Rapidement surnommé Tolbiac la Rouge, en référence au groupe d'extrême-gauche qui se mobilise depuis son ouverture, le centre de P1 devient le théâtre d'une effervescence militante sans pareil. L'unité architecturale du bâtiment, autour d'une entrée unique et d'un grand hall garantissant l'accès aux trois tours par ascenseur, rend les blocages plus faciles et les piquets de grève efficaces. Les étudiants y sont concentrés, les conditions pour étudier ne sont franchement pas terribles, pas d'espace pour manger, pas d'espace vert. Rien de mieux pour favoriser les mouvements de contestation. L'amphi-haine, quant à lui, devient à force d'AG, de blocage et de mobilisation, une tribune mythique. Dès son ouverture, les étudiants y ont montré leur mécontentement par rapport aux réformes liées au système universitaire ou à l'emploi, comme avec la réforme des retraites aujourd'hui. En 1973, la fac se soulève contre la loi Debré sur les sursis militaires et qui instaure le DUG, une sorte d'ancêtre de la licence. 1976 est l'année de la plus longue grève étudiante du XXe siècle. Elle dure 3 mois. La réforme du second cycle universitaire à l'origine de la mobilisation est abandonnée.
Eh bien, les objectifs des étudiants sont clairs. C'est la grève générale et l'abrogation de la réforme du second cycle.
En 1986, Tolbiac est occupé jour et nuit par les étudiants du 1er au 10 décembre. Le centre accueille chaque jour entre 300 et 900 personnes. Il s'agit cette fois de s'opposer à un projet de loi renforçant l'autonomie des universités. Encore une fois, le projet est finalement abandonné. Comme quoi, la mobilisation porte ses fruits. Je pourrais vous énumérer longtemps, comme ça, les nombreuses mobilisations étudiantes à Tolbiac et dans toutes les facs de France, que ce soit en 2006, en 2007, en 2018, ou en 2022, lors de l'entre-deux-tours de la présidentielle qui a donné lieu à une occupation de la Sorbonne, ou encore aujourd'hui, contre la politique du président Macron et de son gouvernement. L'un des faits les plus marquants est sans doute l'occupation de près d'un mois du campus de Tolbiac en 2018 pour contester contre la sélection à l'université et notamment aussi la création de Parcoursup. On se souvient aujourd'hui de l'occupation comme de la commune de Tolbiac. Les médias parleront beaucoup du désordre, des dégradations et de l'évacuation du campus par la police, dont les étudiants condamnent la violence. Pour les militants, il s'agit plutôt de défendre un mode de vie alternatif en communauté, parfois comparé à une ZAD, tout en faisant de Tolbiac un lieu d'éducation hors des institutions. Tolbiac se fait le lieu de la convergence des luttes et de la discussion politique.
Le centre PMF occupé est un centre de mobilisation politique, dont la vie réorganisée est structurée tout au long de la semaine.
La commune libre de Tolbiac est née du refus du plan étudiant et de la sélection à l'entrée à l'université.
Tolbiac demeure et demeurera un lieu ouvert qu'on se réapproprie.
Alors, pourquoi bloquer ? Le blocus est utilisé comme un moyen d'action politique qui permet aux étudiants mobilisés de s'approprier l'université. Il permet aussi de contourner les contraintes d'assiduité qui font pression sur les étudiants, en particulier les boursiers, afin de construire un rapport de force et de massifier la mobilisation. Les mobilisations, ce sont aussi des moments de débat, de partage, de joie, d'effervescence entre les étudiants et les étudiantes. En bref, vive la grève générale.
Gala Free From Desire, l'incarnation de la lutte contre le pouvoir et contre le diktat du capitalisme. Merci Emma. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'un jour on reçoive le chien qui était présent pendant la conf de presse de la commune de Tolbiac. Vous n'avez peut-être pas vu ces images parce que vous étiez trop jeune, mais en 2018, pendant le mois d'occupation dont tu parlais, eh bien, il y avait toujours un yinche qui était présent pendant les confs de presse et quelqu'un avait créé un compte Twitter de ce chien. Je vous invite à aller le retrouver. C'était à hurler de rire. Si on le retrouve aujourd'hui, je veux interviewer ce yinche. Et c'est ainsi, sur ces belles paroles, que s'achève cet épisode de Cours d'honneur, épisode 8, saison 2. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe, Emma, Tibor, Laudine, Pauline, Cilia, Abel, mais également la reporter en herbe Rosalia, notre intervieweuse Clara. Merci au service culturel pour son soutien. Merci de nous avoir suivis pendant toute cette heure. Vous pouvez retrouver bien sûr cet épisode en ligne, tous nos podcasts sur Radio Sorbonne Université. Continuez d'écouter Radio Campus Paris. On se retrouve dans un mois. D'ici là, restez curieux, soyez fous et n'oubliez pas, tout est possible. Ciao.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne. We'll